Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
Hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
La 19e édition du Suoni per il Popolo est là. Du 4 au 23 juin, libérez vos oreilles et découvrez des musiques extraordinaires venues de l'autre bout du monde et du coin de la rue. Au programme, musique actuelle, avant-rock, musique électronique, free jazz, noise, spoken word et dance party. Avec Saul Williams, Lito Pimienta, Hans Joachim Rodelius, Hyde, Snotty Nose Reskits et beaucoup d'autres. Retrouvez toutes les infos sur suoniperilpopolo.org puis en ligne dans les bureaux de la Casa et dans votre magasin de disques préféré.
La 33e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet. Découvrez plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Consultez la programmation et nos forfaits spectacles sur festivalnuitdafrique.com.
Wadaradain, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, je suis terriblement heureux de pouvoir annoncer notre grande finale sur la finale de A Game of Thrones. En fait, c'est une émission un peu épique. En fait, c'est un grand arc que nous nous sommes donné ici à l'émission que de parler à peu près aux trois saisons de cette télésérie qui est maintenant plus que jamais en voie de devenir mythique, si ce n'est que dans la réaction populaire et impopulaire à la finale. Mais bien sûr, nous sommes quand même très contents de pouvoir compléter ça. Je réfléchissais un peu cette semaine par rapport au mandat de l'émission, puis je me disais qu'il y a comme un espace assez particulier à Pop en stock qu'on ne voit pas très souvent. C'est un espace qui est à la fois dans la lecture non pas intellectualisante, mais une lecture très profonde, une espèce de conception très immersive dans le texte et dans l'objet culturel. Et en même temps, de l'autre bord, on est dans la grande discussion, la grande conversation et l'échange. Et à ce qui a trait du dernier trois mois, je trouve qu'il y a eu une forme, somme toute, c'est peut-être une impression qui est très personnelle, de friction entre ces deux domaines-là. Notamment du fait que, je ne sais pas si c'est comme ça que tout le monde l'a senti, mais pendant la diffusion de la saison 8, il y avait ces espèces de moments d'interdiction de conversation qui, pour moi, étaient assez complexes parce que tu arrivais pour parler de quelque chose qui était stimulant ou complexe ou décortiquable et les personnes immédiatement interrompaient le flot de conversation en disant « Non, je ne suis pas tout à fait rendu là. » Et donc, pour moi, il y a eu comme un mois et demi d'embargo total par rapport à la conversation où ce que tu ne peux pas nécessairement t'exprimer en public par peur d'heurter les sensibilités et les divulgâcheurs que les gens laissaient traîner un peu partout à leurs pieds. On est un peu suite à ça et enfin la conversation intelligente, la discussion et l'analyse profonde peut être effectuée. Et c'est pour ça que je souligne, à mon avis, le plaisir et le privilège d'avoir un espace comme Pop en stock pour être capable d'effectuer ça. À la fois une lecture érudite, mais une conversation éclairée. Et quand je parle de privilège d'être avec des gens et conversation éclairée, évidemment que je dois présenter la tablée qui représente qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la Game of Thrones-ologie. À mon avis, si tu veux, c'est ça qui arrive. Il y a aussi des gens qui toussent, mais si tu veux, c'est ça.
Non, j'éternue.
Ah! Roxane Janeway, bonjour.
Salut.
Ça va?
Ça va très bien.
Cool. C'est la première fois que tu participes à une émission Game of Thrones?
C'est la première fois que je participe à une émission de Game of Thrones. Je pense que la dernière qu'il y a eu, j'étais pas encore dans le pop en gang. Je n'étais pas là.
Je veux pas te contredire, mais t'as toujours été dans le pop en gang.
Dans mon cœur.
Ouais, dans le nôtre aussi. Si cette créature, mi-cyborg, mi-Frankenstein, whatever, existe, elle a une place dans son cœur pour toi. On pourrait pas faire l'émission sans Annie Paulin.
Bonjour,
salut.
Bonjour. Oui, je fais exclusivement des passages ici pour parler de Game of Thrones, y compris quand on vient discuter de livres de recettes. C'était la raison de à l'épisode sur les livres de recettes. C'était pour parler de Feast of Ice and Fire. Ah. Mais oui, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ma troisième officielle Game of Thrones et quatrième officieuse.
C'est la troisième Game of Thrones? Je pensais qu'on était à la quatrième. C'est correct. Il y a aussi...
Ben, vous m'avez pas invité, ça veut dire.
Non, c'est ça. Je pense qu'elle n'existe pas, cette émission. Mais je pense pas non plus que que celle-ci va être la dernière émission, puis je veux comme le mettre un peu en note de bas de page pour les auditrices, auditeurs qui vont l'écouter. Je pense que qu'est-ce qui va se passer avec cet épisode-ci, c'est qu'il y a un autre panel de personnes de l'équipe de Pop en Stock qui va écouter notre conversation et qui va la commenter pour un épisode 3.5 ou 4.0. Parce que, évidemment, la conversation ne peut pas se tenir en une heure, surtout quand t'as de la brillance incarnée comme Catherine Côté. Bonjour!
Bonjour!
Ça va?
Oui.
OK, cool. T'es à la bonne place d'abord.
D'accord.
Toi, c'est ta première fois?
Oui, moi j'ai fait deux épisodes des Amazones sur Game of Thrones, mais je suis jamais venue en Pop en Stock pour en parler.
Et qui dit Amazon dit Elizabeth Simpson.
Salut!
Que toi, c'est peut-être ta deuxième Pop en Stock sur Game of Thrones, c'est ta 17e à choc, ça se peut-tu?
À Pop en Stock, je me rappelle pas être venue à Game of Thrones.
Je t'aurais reconnue.
Voilà, parce que je me rappelle qu'il y a eu un épisode, entre autres, peut-être que Annie n'était pas là, mais il y avait eu l'épisode où est-ce qu'on avait présenté les recherches de, entre autres, de Fanny, de Samuel, Fanny Demel et Samuel Archibald sur les morts dans Game of Thrones. Il y avait eu cette étude-là qui avait été présentée. Donc, c'est peut-être que c'est ça la quatrième officieuse ou je ne sais quoi.
C'est fort probable, mais ça me revient.
Moi, je ne pense pas être venue en parler à Pop en Stock, j'en ai parlé souvent aux Amazones. Puis en plus, c'est cool parce que c'était la semaine dernière, je crois, notre épisode aux Amazones où on a parlé de ça. Donc, il y a eu une réflexion qui est commencée et qui se continue et qui va se perfectionner à travers ces panels-là. Donc, je vous invite dans la chocosphère à aller écouter les différents panels qui se répondent les uns les autres pour continuer à bonifier la réflexion.
Ah. Les analyses de Game of Thrones n'auront plus aucun secret pour vous.
Ça, c'est une ligne de box-office, mais il faut qu'on fasse attention aux propriétés intellectuelles ici.
Pardon.
Non, Décidéré aussi.
C'est Décidéré,
oui.
Ah non, c'est Mathieu Niquette, c'est vrai. Bon.
On est correct. Tout va bien.
Ça arrive.
Ils sont tous toilés.
À chaque point-là, le point est hasard.
Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour souligner que, contrairement à la saison 8 de Game of Thrones, qui avait aucune femme qui était sur l'équipe scénaristique, c'est juste des femmes en ce moment qui sont les collaboratrices à Pop en Stock. Ben, il y a Jean-Michel, mais t'es comme un peu une femme honorifique.
On sait pas, je m'identifie quoi. J'ai gardé ça pour moi-même.
C'est vrai.
Ouais. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais en même temps, c'est drôle. Est-ce que vous avez vu, petite question de départ comme ça, est-ce que vous avez écouté Last Watch? Le documentaire
qui a été diffusé? Oui, j'ai écouté le documentaire. Il y avait, je sais pas si c'était volontaire, mais ils ont mis beaucoup de l'avant les productrices, toutes les personnes qui s'impliquaient. C'est très axé. Je m'attendais à un behind the scenes un peu plus
technique.
Moins technique.
Très technique.
Okay, ouais, je trouvais que c'était très technique justement. Okay. Il y avait c'était beaucoup le crew, beaucoup l'équipe de production, l'équipe de costumes, de décors. Ça, c'est certain que moi, c'est le genre d'affaire qui me fait triper de regarder de toute façon. Là, mais c'était vraiment très intéressant. C'était aussi très intéressant de voir comme Matt Hill garrocher son script après à la première lecture, de voir. non, mais il y avait. J'ai pas appris grand chose, mais ça montrait des affaires vraiment intéressantes sur toute la production, comment ça se passe dans une production. Puis ça, je pense que c'est quelque chose. Game of Thrones a beaucoup misé là-dessus à travers les années parce que c'est une équipe qui a été mise à profit time and time again.
Mm-hmm. Ouais. Puis c'est pour ça que je posais la question parce que, bon, évidemment, y a la télésérie, la finale, a fonctionné un peu comme un moteur médiatique, surtout en a posteriori, quand il y a eu la réaction par rapport à la finale, ici, vous pouvez insérer vos opinions par rapport à la pétition puis les choses comme ça. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant, puis c'était aussi très stratégique, si c'était le cas. Si c'était pas stratégique, c'est juste bien tombé. De diffuser la Swatch la semaine de l'émergence de cette pétition-là qui demandait la réécriture et la refonte totale de la saison 8, parce qu'il y a eu un espèce de moment lors de l'écoute, moi, quand j'écoutais la soirée, parce que j'ai fait « OK, mais tu peux pas demander ça aux gens, tu sais. » Il y a des scènes extrêmement importantes dans ce documentaire-là où on rencontre des personnes qui ont mis leur vie sur hiatus pendant 8 ans. Puis qu'il y avait, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce regard-là, parce que pendant que les gens étaient en train de demander la tête de Weiss et Benioff, ben, on oubliait que un post-credit, ben, en fait, que le générique de Game of Thrones en moyenne est quelque chose comme 17 minutes de gens, tu sais. Tu peux pas remettre ces gens-là à l'œuvre parce qu'ils ont travaillé de peine et misère à couvrir des tracks d'automobiles. Il faut juste pour le profil autour du spécialiste de la neige, parce qu'il y avait un employé que c'était ça sa job, c'était juste de faire et de diffuser de la neige, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Fait que, tu sais, d'avoir demandé la tête de deux gars, d'avoir dit que la franchise de Star Wars va se planter parce qu'on a mis deux gars, c'est d'un peu invisibiliser le travail de tout le monde qui a fait les armures, qui a... J'ai trouvé ça agréable.
C'est sûr que ce documentaire-là est un très bon rappel de tout ça, puis je pense que c'est Sophie Turner, justement, celle qui incarne Sansa, qui avait dit « c'est vraiment irrespectueux pour tout le monde dans la production », puis elle a raison de souligner ça, mais je pense qu'en même temps, la frustration du public, puis elle vient à plusieurs égards, puis on pourra en discuter dans plusieurs...
contextes.
Dans plusieurs contextes, mais...
Dans le métro, ouais. Les toilettes, à 2 heures.
Je pense qu'il y en a qui se sont sentis un peu pris pour acquis, puis il y a des problèmes et vraiment des lacunes avec les deux D&D, comme on les surnomme, avec leur approche, puis c'est pour ça qu'il y a eu tout un truc, tout un mouvement sur Reddit, je pense, qui faisait que quand tu tapais dans Google « bad writing », t'avais leur photo qui ressortait.
Mais je pense que c'est justement ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui a remis en question le travail de tous les gens qui ont travaillé derrière, de tous les producteurs, productrices, de tous les gens qui ont travaillé au niveau de la technique. Il y a personne qui a jamais remis en question leur travail à eux. Ce que les gens ont remis en question, c'est la manière dont...
Les deux responsables. À la tête.
Scénaristique, là. On parle pas de visuellement parlant, à part l'épisode qui était vraiment trop sombre puis qu'on a rien vu.
J'ai recalibré mon VLC juste à cause de ça.
Écoute, j'ai recalibré VLC, puis la semaine d'après, j'ai acheté une nouvelle télé parce que j'étais comme. Plus jamais, je vais vivre des choses horribles comme ça.
Mais c'est super intéressant là, ce que vous dites. Excuse-moi, je veux, sans vouloir t'interrompre, je trouve qu'il y a une belle place de parenthèse par rapport à ça. Recalibrer VLC, c'est... Parce que j'ai pas eu ce problème-là. En l'ayant écouté live et en ayant comme payé pour, est-ce que c'est possible que ça soit un truc de piratage?
Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes en l'écoutant live aussi. Ça dépend vraiment de ton setup. Je sais je sais qu'il y a eu des visionnements de groupe chez une certaine personne qui vient peut-être d'arriver en douce dans le studio.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Et donc, je pense que les conditions de visionnement étaient quand même meilleures. Donc, quand tu as vraiment une bonne résolution, quand tu l'écoutes le soir avec toutes les lumières fermées, je pense que c'était peut-être agréable, mais moi, je l'écoute
glinglement. Avec les conditions que tu peux te permettre.
Avec les conditions que je peux me permettre, c'est-à-dire que je ne me paye pas le câble. Je pouvais seulement l'écouter l'après-midi avec ma télé qui a 12 ans. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Et ce que ça a donné, c'est beaucoup de noir.
Moi, je l'ai écouté sur avec un abonnement qui n'était pas le mien parce que je l'écoutais en groupe aussi, mais je l'ai écouté sur avec un abonnement de Crave TV sur une télé 4K, pas en streaming live, mais en streaming sur le site de Crave.
En diffusion.
Et un petit peu comme 1h30 après que après que l'épisode ait joué pour pas qu'on ait trop de bugs. Mm-hmm. Et j'ai pas vu grand chose non plus.
Ah oui, donc, okay, c'est bon, merci.
Mais si je peux me permettre un petit rappel sur, en fait, si je peux revenir un peu en arrière sur la discussion qu'on avait sur la réaction, je pense que, en tout cas, en ce moment, on le sait, il y a un manque de bienveillance en général dans nos discussions. Puis je veux pas prendre une éternité pour en parler, mais la réaction que j'ai entendue sur la 8e saison de Game of Thrones, même si je vivais des émotions, puis même si émotivement j'étais impliquée, puis même si on l'écoutait en groupe, puis qu'on a crié, puis qu'on a pleuré, puis qu'on a ri, puis qu'on a chialé, il y a une différence, je pense, entre cette espèce d'émotivité-là qu'on vivait dans le salon entre gens qui s'apprécient, puis qui étaient capables de dire des choses qui dépassaient notre pensée, mais on le faisait dans le respect. Mettons, si on prend ça et qu'on calque ça à l'attitude qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, puis je peux comprendre toute la pression psychologique qui a été faite auprès de tous les artisans-artisanes de l'émission.
On salue Kit Harington.
On salue Kit Harington, qui en ce moment est en réhabilitation pour sa santé mentale. Puis je pense que c'est
horrible.
C'est horrible, cette réaction-là. Puis je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui, qu'on va continuer à avoir, puis la discussion qu'il y a eu dans d'autres émissions de Choc, et juste le fait qu'on peut vivre nos émotions très intenses, on peut les partager avec nos proches, mais à un moment donné, je pense que c'est quoi le plaisir d'observer cet univers pop-là, si ce n'est que de le consommer, de se poser et d'y redonner une réflexion. Mm-hmm. Puis la réflexion peut terminer en disant « je n'ai pas aimé ça, ce n'était pas bon pour des raisons que je peux justifier », mais cette espèce de vague de haine-là, je l'ai trouvée excessivement lourde à regarder et je suis même pas impliquée. Mm-hmm. Fait que je sais pas, je veux juste, puis je sais qu'ils m'entendent pas, là, mais je veux dire, je veux juste saluer, en fait, puis faire peut-être un appel à la bienveillance en général, puis ben aussi pour les créateurs de séries qui n'ont rien à nous rendre et ne sont pas à notre service, ouais. Je crois.
Non, exactement. Ben, je suis d'accord aussi, puis justement, on parlait du travail invisible de tous ces gens-là qui œuvrent dans le département des costumes et tout. J'ai trouvé que la cinématographie de la 8e saison et la musique
était
absolument incroyable. Moi, j'écoute les soundtracks de toutes les autres saisons de Game of Thrones en travaillant. Je les connais pas mal par cœur, et Ramin Djawadi s'est vraiment complètement dépassé avec la 8e saison. Mm-hmm. C'était hallucinant.
C'est ça. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est une saison qui était au niveau visuel, au niveau de la musique, les costumes aussi étaient formidables.
La robe de Sansa, la fin avec la symbolique, le travail qui est derrière ça, c'est hallucinant.
C'est fou, là.
La chaise roulante de Bran.
C'était tellement beau. Comme tout était vraiment parfait visuellement au niveau sonore, j'ai trouvé ça formidable. Donc c'est pas le travail de ces personnes-là qu'on remet en question, puis encore
non,
là
pas du tout.
Encore là avec un énorme appel à la bienveillance comme Elisabeth vient de le dire. Puis je pense que faut pas oublier en tant que fan que l'objet nous appartient pas. Mm-hmm. Et la fin qu'on veut voir ne nous est pas due. Mm-hmm.
Bien dit. Ouais, là-dessus, je vais me reprendre quand j'ai dit qu'il y en a qui s'étaient sentis pris pour acquis. Je pense pas qu'effectivement, il y a une redevance qui est de leur part, mais il y a une frustration que je peux comprendre quand t'as consommé. On s'entend quelque chose de qualité pendant 4, à la limite 5 ans.
Ah oui.
Et de le voir péricliter. Moi, personnellement, je trouve que Game of Thrones a commencé à décliner sérieusement à partir de la 5e saison.
Je suis d'accord.
Le foreshadowing, je le voyais plus là que dans les indices qu'on laissait derrière ça. Mais c'est ça puis on s'entend, Twitter, Facebook, 140 caractères ou peu importe. C'est très difficile d'être critique et nuancé quand on répond à chaud. N'empêche que j'en veux quand même à D&D parce que je trouve que ils ont massacré quelque chose. Puis j'ai lu des rumeurs, on s'entend que on peut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet, mais que Martin s'est détaché volontairement de la production il y a déjà 5-6 ans parce qu'il était comme plus sûr finalement là. Bon, en même temps, je suis contente qu'il se consacre à l'écriture des livres, mais
c'est pas ça qu'il fait de toute façon.
Mais c'est pas ça qu'il fait de toute façon. Il fait des jeux vidéo.
Ben, parce qu'il fait d'autres choses.
Ouais,
ben, c'est ça.
Ben, est-ce qu'il a fait Fire.
Ben, il a fait deux
Fire
livres.
Blood?
Ouais.
Non, mais.
Puis un jeu vidéo.
Ouais, il est en train de. Il est consultant sur un jeu vidéo en ce moment. Il fait des cons, il fait des apparences. Mais je pense que ce qui est important avec les entrevues de George Martin, c'est qu'il y a une belle manière que moi, je trouve très explicite de se dissocier complètement du travail de D&D, que moi, j'appelle Black and White, maintenant B&W, parce que ça me mélange avec Donjons et Dragons, puis ça me dérange.
Oui, oui.
Mais il y a une belle manière de toujours dire comme... Il répond jamais aux questions clairement, c'est toujours un peu vague. Quand il dit « Est-ce que tu es satisfait du travail qu'ils ont fait? » Il dit... C'est des bons auteurs. Non, ils ont fait du bon travail, mais tu sais, c'est sûr que moi, c'est pas pareil. Puis ce que moi, je vais écrire, il y a des choses qui vont être semblables, mais il y a des choses qui vont pas être semblables. Puis tu sais, fait qu'il fait toujours un peu rester vague sur... Il donne jamais vraiment son avis. Je pense que c'est très légal,
Si je peux rajouter quelque chose par rapport à Martin et au fait que, bon, Game of Thrones, A Song of Ice and Fire avait été convoité pour des films longtemps parce que c'était un matériel absolument génial, puis Martin avait toujours refusé, et D.B. Weiss et Dan Benioff se sont enorgueillis du fait qu'il leur a donné, après qu'il a répondu à la fameuse question, qui est, qui est la mère de Jon Snow. Mm-hmm. L'affaire, c'est que Martin n'a jamais confirmé qu'il avait donné la bonne réponse.
Non, pas du tout.
Alors, oui, on aura fait confiance parce qu'on avait l'impression qu'il y avait eu un vote de confiance de la part de Martin. Mais peut-être qu'il était pas là tant que ça, finalement. Puis Martin, pendant longtemps, dans la dernière saison, il dit « Ah, oh, ouais, ça ressemble pas mal à ce que j'écris. Ça va ressembler à ça. » Le lendemain, c'était comme « C'est pas ça, finira pas de même. » C'est pas vrai que ça finira pas de même.
Mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas le choix de dire que ça finira pas de même s'il veut être sûr que ça va se vendre.
Non, ouais, c'est vrai. Je pense que les gens vont l'acheter, peu importe ce qui arrive. Je pense que ce qu'il a dit, c'est « Moi, je leur ai dit quel personnage arrivait à quel point. Mm-hmm. » Fait que, par exemple, il a dit « Jon Snow va aller, dans le spoiler, nord. J'imagine, va se ramasser dans le nord à la fin. » Puis je pense qu'ils ont essayé un petit peu de piecer up tout le reste avec ça puis d'en faire quelque chose de cohérent. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de personnages qui ne se retrouvent pas dans la série ou qui ont été dans la série brièvement pour dire des lignes absolument horribles et qui ont été tués bizarrement après pour régler des problèmes. mais il y a tous ces personnages-là qui vont arriver en ligne de compte en ce moment dans les livres. Justement, l'arc narratif de Dorne est super important en ce qui se passe du côté de l'arc narratif de Daenerys. Fait qu'il va y avoir tellement de choses qui n'ont pas pu du tout être adressées dans la série, qui vont arriver puis qui vont arriver en ligne de compte, que peut-être que ça va finir de la même manière, mais il y a aucun moyen que ça finisse pareil.
Mm-hmm. Non, c'est ça.
C'est certain.
Je trouve ça super intéressant que tu dis que ça va peut-être finir de la même manière. Moi, je suis pas mal convaincu. Puis je me suis fait reprendre de façon extrêmement intéressante à mon travail, en fait, parce que je considérais que la fin de la télésérie n'était pas une fin authentique. Et Hélène Després, qui est déjà venue à l'émission, qui est une super intelligence par rapport à ces œuvres-là de fiction, elle dit, ben, il n'y a pas de vraie fin. Il n'y a pas une fin qui prime par-dessus l'autre. Il y a un choix qui va se faire. Soit que tu acceptes la fin de la télésérie ou soit que tu acceptes l'autre fin. Ça, c'est somme toute un travail qui est très personnel. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps, il n'y a aucune possibilité que ces deux fins-là soient égales si ce n'est que de la présence de Lady Heartstone.
Ça, c'est important.
Heartstone.
Stoneheart. On parle bien de la...
Caitlin Stark.
Ouais.
Hearthstone, c'est un jeu de cartes...
À la Magic.
Ah, c'est Stoneheart, c'est vrai, excuse. Ouais, pardon.
Puis en plus, c'est le Heart qui s'écrit pas pareil. Ouais. Parce qu'il veut pas dire la même
c'est
chose.
C'est H-E-A-R-T. Hearth. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je pensais à Hearthstone. Bon. Vous m'excuserez. Mais...
Pardonnez.
L'autre truc aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé, Roxane, ton utilisation... pour rester dans l'esprit de ce qu'Elisabeth proposait, cette idée-là de pas nécessairement dire que c'était pas bon, mais de dire qu'on est insatisfait. Mm-hmm. De sortir le mot insatisfaction que ouais. Je trouve qui est vraiment puissant dans ce genre de conversation-là. C'est de dire, là où ce que quelqu'un dirait, par exemple, c'est pas bon, ben en fait, ça pourrait être un moteur de conversation. Mais insatisfait, à mon avis, c'est beaucoup plus une position qui est valable quand tu parle de ton expérience par rapport à...
Ben, c'est que c'est pas un jugement qui essaie d'être objectif, tu sais. C'est très subjectif comme position de dire que t'es insatisfait de quelque chose, de dire que quelque chose n'est pas bon. Ça a comme une espèce de volonté d'être objectif alors que ça peut pas vraiment l'être.
Mm-hmm. C'est ça. Comme moi, je suis pas d'accord, c'est pas bon. J'ai beaucoup aimé la saison 8. Excusez, faut que je le dise, on est à peu près à moitié de l'émission. Je suis comme, elle était 40 la saison 8. C'est tellement intelligent. Bof.
Eh boy! Moi,
c'est pour ça qu'il est au bord de la vitre.
Ouais, c'est ça, c'est pour pas qu'on aille pétaille.
C'est pour ça que j'étais comme, OK, on va dire insatisfaite à partir de maintenant, OK?
Mais je vais peut-être justement embarquer sur ce bateau-là pour parler un peu d'un article que j'ai lu plus tôt aujourd'hui de Zeitnet. Tu fais qui? Je m'excuse, c'est un nom turc, puis je suis pas très bonne pour les noms turcs. Qui est en fait une professeure à l'université et aussi une écrivaine, qui a écrit quelque chose de super intéressant sur pourquoi les gens ont commencé à trouver ça un peu insatisfaisant, l'écriture dans les dernières saisons. Puis il y a quelque chose de très intéressant sur l'espèce de tournant qu'il y a eu entre l'adaptation assez presque littéral souvent des œuvres de George Martin dans les 3-4 premières saisons pendant qu'il y avait du matériel et l'espèce de saut à l'écriture presque uniquement de D&D et de leur équipe. Puis elle parlait du fait que l'écriture de George Martin est quelque chose qui est une écriture très sociologique. On aborde tout ça d'un point de vue sociologique. On regarde des espèces de grandes structures, puis comment ça influence les personnages. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que l'écriture sociologique donne ce que tout le monde a un petit peu aimé au début de Game of Thrones, c'est-à-dire il n'y a pas de personnage ultimement bon, pas de personnage ultimement mauvais. On est capable de comprendre les motivations, même si on n'est pas d'accord avec les actions. Il y a quelque chose, on comprend le système, on comprend les actions individuelles. Puis, ça nous prouve aussi, surtout avec la mort, par exemple, de
Ned Stark.
Ned Stark aussi, que ben, le système est plus fort que
le héros.
Que le héros.
Est-ce qu'il y a un héros aussi?
Non, mais dans le sens que la figure du paladin qui habituellement triomphe, le système est plus fort que lui.
Exact. Ouais. Fait que c'était pas une question de est-ce que Ned Stark est un héros? Moi, je pense qu'il l'est pas.
Non.
C'était plus la figure du héros en général avait comme pas sa place dans les premières saisons, et dans le texte de Martin a clairement pas sa place. Il y a pas de héros dans les livres de Martin. Puis là, on arrive à D&D, qui, eux, sont arrivés et qui ont un petit peu, au-delà des œuvres de Martin, ne savaient plus trop comment justement gérer ce point de vue sociologique-là, et sont retournés à un point de vue très, très hollywoodien, qui est quelque chose qui est un point de vue psychologique. Donc, on va essayer d'aller... c'est une espèce de retour justement à ces figures du bien et du mal. On retourne un petit peu à ce truc super commun-là dans le cinéma hollywoodien, cette espèce d'écriture... j'allais dire trivialisante, là, mais je pense que c'est un petit peu hautain comme truc. Moi, j'aime ça aussi, les trucs hollywoodiens cool, là.
Sûr que ça enlevait la spécificité.
Exactement. Puis ça enlève aussi tout l'accent sur la structure, sur la grandeur, sur l'espèce de monstre qui était la société dans laquelle tous les gens vivent dans le monde de Westeros, oui.
Ben, je rebondirais là-dessus en disant qu'effectivement, on a beaucoup... il y a eu beaucoup d'accolades dans les premières années par rapport au fait que l'intrigue politique était un point fort, c'est quelque chose qui a été complètement évacué à partir de la saison peut-être 5, 6 encore plus. Mais je veux rappeler que le premier, puis je pense que encore une fois, on va faire des jokes de foreshadowing, mais le premier personnage purement D&D, c'est Ross, la prostituée, le personnage le plus unilatéral et le plus... OK, elle s'assied, elle a un peu de drive, mais elle n'a aucun intérêt.
Mais Ross était juste une espèce d'amalgame de tous les personnages de travailleuses du sexe qu'il y avait dans les livres. C'était juste... Il était comme, bon, mais on a besoin d'une travailleuse du sexe parce qu'il y en a comme 5 dans le livre. Fait qu'on va juste...
En faire une qui
faire
est tout ça.
Tout
là.
Avec ça, tu sais. Ouais. Mais je pense que pour moi, je l'ai ressenti... vraiment naturellement, comme quand on est arrivé à la fin du matériel du livre, c'était pas nécessairement que les intrigues étaient plus intéressantes, mais il y avait quelque chose au niveau des personnages qui m'énervait. Il y a quelque chose, puis j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus sur pourquoi est-ce que c'est encore le fun, il y a encore des gens qui meurent, il y a encore un peu de politique-ish. Tu sais, il y a encore du Game of Thrones, il y a encore de l'essence de ce que j'aimais, puis j'arrivais pas à comprendre c'était quoi... Puis je pense que c'est en lisant l'article aujourd'hui que j'ai vraiment mis le doigt dessus, c'est la posture d'écriture qui a vraiment pour moi été le changement de posture d'écriture a ce qui a été un peu brisé mon espèce de magie, tu sais. Fait que c'est pour ça que tantôt je disais que les gens qui étaient comme « Ouais, mais tu sais, la saison 8, c'est vraiment mauvais. » Puis je suis comme « Ben, pour moi, ça, c'est en ligne avec ce qui se fait depuis qu'il n'y a plus les matériels, le matériel qui était les livres. » Pour moi, c'est en ligne avec ça. Puis peut-être que, tu sais, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, là. Tu sais, je pense pas que... Je pense que D&D ont bien fait d'aller vers quelque chose qu'ils connaissaient puis d'écrire quelque chose qu'ils connaissaient bien, puis je le fais entre guillemets, là, pour les gens qui peuvent pas nous voir. Je pense qu'ils ont bien fait d'aller dans quelque chose qu'ils maîtrisent. Puis encore là, c'est discutable. Parce que je pense pas qu'il aurait pas été capable de maintenir le même ton, puis peut-être que ça aurait justement tombé flat.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on vient à la posture de... une posture sociologique où on va avoir des personnages qui sont dans une dynamique puis qui sont pas dans une dynamique manichéenne, mais qui font partie de la grande dynamique politique de Westeros, puis que t'as ces personnages là qui ont leurs flaws, mais que des fois ont leurs moments de bonté, puis c'est ce que Jamie entre autres représentait, je pense, cette espèce de ben non, c'est pas que une méchante personne, mais ça veut pas dire qu'on va toujours être d'accord avec ce qu'il fait. Je pense que Jamie représente bien ce genre de personnage là et que là à la fin, on avait l'impression que la plupart des personnages étaient tombés dans le manichéisme.
Exact.
Puis que lorsqu'on fait la fin qui est censée être la fin logique structurelle qu'on aurait dû avoir, ben ça nous semble très vulgaire, en fait. Ça nous semble très rentré dans la gorge de force.
Moi, le mot qui me vient, c'est garrocher. Je pense que c'est un peu ça qui vient me qui vient me chercher le garochage de fin.
Mais je suis d'accord, il y avait quelque chose qui était très bâclé, puis justement, dans cette approche sociologique-là, il y avait un réalisme, mm-hmm. et une cohérence par rapport à l'univers qui mettait en place. Il y avait des scènes qui étaient très lentes, il y avait beaucoup de discussions, parce que tout ce qui se passait, ça servait justement à la logique interne de l'univers de Westeros. Là, après ça, à partir de la saison 5, c'est là qu'on arrive à Dorne, justement. Là, on est dans le sensationnalisme, mur à mur. Ouais. T'es en prison, tu montes tes seins, c'est, il se passe absolument n'importe quoi, juste parce que c'est le fun.
T'as Brown qui fait des jokes de cul juste pour être drôle.
Oui.
C'est ça.
Oui. Puis qui se ramasse Master of Coins.
Ça,
oui. J'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça.
Je pense que c'est la chose
ça.
Qui m'insulte le plus, mais voulez-vous bien me dire pourquoi tous les gens de Highgarden et des alentours n'ont pas dit « Hell no, c'est qui ce dude-là? Pourquoi il y aurait ça? » Tu sais, ça fait aucun sens. Anyway, peut-être
moi,
que...
je pense qu'il s'est même pas compté.
Probablement
c'est
pas.
C'est un sellsword.
Il a jamais été à l'école. Je pense que ça va poser des problèmes. Puis peut-être que la raison pour laquelle ils ont mis Bronn là, c'est peut-être pour planter l'intrigue d'un prochain spin-off où ils vont parler de la prochaine guerre. Parce que Highgarden va se séparer, parce que ça fait aucun sens, là.
Vous parlez de la conclusion, là, avec le...
Oui.
Pourquoi Bronn est encore là? Bronn devrait être mort.
Bronn fails upwards.
Non.
Oui.
Mais il fait upward depuis 3 saisons, là, qui fait pas grand chose. Mais il
Chaos is a ladder. Mais ça, c'est placé depuis tellement longtemps.
Ça, c'est du fanservice à la à puissance 1000. Oui, le monde a trouvé que ce personnage-là, le monde, je sais, je leur ai tous parlé.
Tout le monde.
Il y avait un certain. Il était populaire, il était drôle, il était.
Relatable. Il était pas un highborn. T'sais.
Non, c'est ça. Puis ils ont extrapolé, ils ont extrait ce personnage-là, puis ils l'ont amplifié. Mm-hmm. Pour des raisons logistiques, très certainement aussi, parce qu'il prend la place de d'autres personnages éventuellement. Ouais. Mais c'est un personnage, encore une fois, qui est basé plus sur l'écriture de D&D que sur Martin. Et c'est un personnage que je trouve personnellement pas très intéressant.
Non.
Très unilatéral. Il veut des bordels, mais il va parler des bordels. Mais y a-tu, t'sais.
Si je peux me permettre aussi une autre, peut-être. Explication de la déception de la saison 8. Je vais faire un parallèle avec d'autres séries qui ont l'air de pas avoir rapport, mais j'appelle ça, moi, le phénomène... Tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup, justement, cette espèce de... Tu sais, lorsqu'on disait le foreshadowing is not storytelling, puis, tu sais, à un moment donné, on va pas juste donner ce qui semble logique parce qu'on veut quand même surprendre les fans puis des choses comme ça. Mais pour moi, ça me fait beaucoup penser à d'autres séries culte avec beaucoup de guillemets où est-ce que on a essayé de faire cette espèce de jeu là où le but c'est juste de tomber dans une espèce de on va tout le temps être en train d'essayer de piéger le téléspectateur, mm-hmm. la téléspectatrice. Puis pour moi, c'est pourquoi, par exemple, la finale de How I Met Your Mother a pas été une bonne finale. C'est pourquoi la saison...
Très bon exemple.
Mais la nouvelle saison, je sais pas si vous avez écouté les Brooklyn Nine-Nine, mais
oui.
Moi, je l'écoute sur Netflix en la binge-watchant. Puis pour moi, malheureusement, la nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine a cette espèce d'affaire-là où est-ce que on a placé des codes où c'est... Ah, mais il y avait une twist! Puis là, ben... L'écriture devient le « je vais vous montrer que vous allez vous tromper » puis que vous allez pas voir venir. Puis ça devient comme une espèce de « ok, c'est intéressant, mais ça devient comme un peu répétitif quand même dans le modèle. » Puis j'ai l'impression que, tu sais, de dire « hey, mais il y a une twist », ben ça fait pas nécessaire. C'est pas parce qu'on est surpris que c'est bon.
C'est pas suffisant.
Je dis pas que c'est ce qui donne, c'est pas le seul aspect important dans cette analyse-là, mais ça peut être une pris en considération l'espèce de, mais il va falloir surprendre.
Mais c'est surtout que...
Ben non, mais on...
À quel prix aussi? Puis est-ce que c'est nécessaire? J'avais cette discussion-là avec un ami en fin de semaine. Il me dit, moi, ça me dérange pas d'avoir des spoilers, d'être mm-hmm. gâché, parce que ça me permet de voir si c'est logique, si ça finit de façon logique. Puis bon, il y a d'autres façons d'en profiter d'une œuvre, mais de cette façon. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Puis avoir une twist pour « for the sake of having a twist mm-hmm. », tu sais, mm-hmm. c'est... Des fois, oui, donne aux gens ce qu'ils veulent, à la limite. Bon, il y a eu toute une sorte de plainte parce qu'il n'y avait pas assez de morts à la bataille de Winterfell. Mais d'un autre côté,
ce qui est irréaliste, là, on va tout se le dire.
Oui,
par contre,
mais
C'est exactement ça. Ça, c'est justement twister, tweaker le réalisme pour tomber dans le sensationnalisme, mm-hmm. puis sauver les fan favorites. C'était vraiment ça.
On se rappelle aussi qu'ils ont justifié le fait que l'épisode soit super dark parce qu'ils voulaient que ça soit réaliste. Ben oui, tu te bats contre des zombies, ouais. puis des. En tout cas, peu importe.
Non, mais le réalisme, c'est important, surtout quand tu te bats contre des zombies.
Oui, exactement. Ouais. Faut mais rester
sûr. C'est quand il y a trois personnages qui sont acculés contre un mur pendant à peu près 45 minutes, mais il n'y en a aucun des trois qui meurt. Il y a quelque chose de vraiment sensationnel qui se passe.
Comment est-ce que Sam a pu survivre? En tout cas,
Catherine, je trouve que tu exagères dans tes accusations. On a fait ça il y a trois fois de semaine ensemble. Puis on est encore là, les deux. Non, mais.
Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le fait que l'utilisation de la mort comme procédé narratif, ne disant, ben, n'importe qui peut mourir. Ouais, mais ça veut pas dire que, tu sais, ça sert l'histoire tant que ça.
C'est ça.
Parce que ouais. c'était pas ça le point. C'était pas oui, ça. N'importe qui peut mourir. Puis. C'est un peu comme ça qu'on l'a perçu, mais n'importe qui peut mourir parce qu'ils sont dans un système, il y a des mm-hmm. dynamiques politiques qui sont autour puis qui expliquent que personne n'est protégé. Il n'y a personne qui a une armure de... Comment un plot armor? Une armure de... Il n'y a personne qui a un plot armor assez solide pour combattre les dynamiques systémiques mm-hmm. qu'il y a dans ce climat politique.
À part mm-hmm. Cersei, apparemment. Non, parce mais que elle,
sur son balcon.
Sur son balcon.
Tout
mais
va bien.
Justement, on parlait de réduire le nombre, le matériel à certains personnages parce qu'il y avait trop d'avenues possibles, puis impossible de tous boucler ces boucles-là, mais ouais. faire sauter la moitié de ton cast de ta distribution dans l'Église, qui est essentiellement le Vatican, je vois très, très mal comment est-ce que ça peut avoir comme effet, comme adéquation de devenir la reine. Ça ne fonctionne pas dans aucune manière, dans aucun système politique, aucune façon.
Tarts throwing swords from lakes is not a viable system of...
Merci de citer Monty Python, je suis bien d'accord. Mais non, mais en plus, tu sais, elle a fait ça, puis elle a survécu à presque deux saisons au complet après ça, puis Daenerys a fait ça, puis elle s'est fait l'épisode d'après.
Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment problématique avec le fait d'utiliser la mort comme une espèce de sortie pour ne pas avoir à écrire quelque chose qui a de la...
Merci! Mmh. Merci!
Et
comme Cleganebowl?
Comme Cleganebowl, mais là, ouais. Cleganebowl, my God! Anyway, c'est pas ça que je veux dire.
Pourquoi est-ce que tu spears quand tu peux dropkick? Je suis d'accord, cette question-là est bizarre.
Tu sais.
Ouais.
Puis ça a été ça avec tout le plot de Dorne. Avec Dorne, moi, je ne les pardonnerai jamais. Dorne, avec, comme tu disais, quand ils font exploser le Great Keep. Puis c'est comme, bon, c'est plus vraiment quoi faire pour délier avec Highgarden. Fait que, OK.
On n'a pas le budget à montrer la bataille. Ouais. Fait qu'on va juste penser que le plus gros, genre, la plus grosse forteresse avec l'armée la plus intacte. Avec la possibilité de survivre à un siège pendant des dizaines mm-hmm, d'années parce oui. que c'est l'endroit le plus riche en agriculture, ben ça va se faire de même. Puis, une autre affaire que j'ai trouvée absolument ridicule dans cette portion-là de l'histoire, c'est que Daenerys débarque sachant très bien qu'elle a besoin de nourrir ses troupes. Et qu'est-ce ouais. qu'elle fait? Elle fait brûler toute la bouffe! Il y a comme plus de conséquences à ce que les personnages font. Puis ça... C'est loin de l'idée première que, justement, la politique, les intrigues, les positionnements des gens, mm-hmm. les actions qu'ils posent ont une incidence sur, pas juste eux, mais sur un ensemble oui. de personnages. Alors que là, ben...
Je pense que c'est une mauvaise compréhension de la part des écrivains de comment écrire des énigmes politiques et de comment, je veux dire, les actions au niveau politique ont une répercussion sur la population en général.
On parle pas de réécrire House of Cards, on parle juste d'une simple conséquence logique. La madame, elle avait aucune...
Il y a personne à Highgarden, il y a d'autres familles dans le bout de Highgarden. Clairement, eux vont claimer... Highgarden, tu peux oui. pas juste le donner à Bronn.
Mais tu sais, si tu... En plus, là, excuse-moi, tu donnes à Bronn, OK, il y a une promesse d'un bord, il y a une promesse de l'autre bord. 75% du monde involve sont morts, c'est ça, tue-le. Excuse-moi,
comme, pense à d'autres choses.
Oui, non, c'est ça. Tu sais, oui, on t'a dit qu'on allait te donner ça pour pas que tu me tues, mais là, c'est parce que la guerre est finie, puis tu l'auras pas ton château, c'est ça. Ça aurait été beaucoup plus réaliste, justement.
C'est la même affaire avec la fin, tu sais, Grey Worm, qui essentiellement tout le pouvoir. Grey Worm est le chef d'armée d'une reine qui vient de se faire tuer, donc il est essentiellement le gouverneur du continent. Il y a toutes les armées. Il y a encore les Dothraki. Il y a encore toutes ces Unsullied. Puis il est juste comme... Fine, je vais laisser le prisonnier parler, puis on va juste donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, puis on va s'en aller en laissant toutes les Dothraki.
Oui, on s'entend que lire comme un adolescent.
Puis, puis le jury est composé de, essentiellement...
Sa famille,
des alliés proches ou moins proches de John et de la famille Stark. Fait que,
ben, qu'est-ce qui reste de l'instance politique aussi, quand même?
Non, parce que, en effet, mais Arya n'avait pas d'affaires là, Bran n'avait pas d'affaires là, parce que ces deux personnes-là n'ont pas de pouvoir politique. Yasha avait fait une alliance avec Daenerys pour avoir, puis on s'en rappelle, le royaume des Iron Isle, devait pas faire partie du Seven Kingdoms. Fait que pourquoi elle se ramasse là à dire « Yeah, sure, je vais finalement revenir dans les Seven Kingdoms, ben maintenant 6, whatever. »
Puis qui sont en fait 8, mais bon,
on va dire 7.
Ouais, c'est ça.
Puis elle fait comme « Ok, sure, je vais revenir, puis en plus, je vais te donner le pouvoir à Doudla. »
Qui a tué ma chix.
Tu sais?
Ouais, ça...
Il y a comme quelque chose qui fonctionne pas dans pourquoi tous ces gens-là sont là, puis pourquoi ils sont tous... Pascal sourit doucement à côté. Je sais pas si ça vient de chercher profondément, cette histoire-là.
Non, c'est juste des échos de notre visionnement où on a passé les 30 dernières minutes à rire au dernier épisode. Donc, revient.
Moi, j'aime ça en plus que dans la tablée, il y a comme 3-4 personnes que tu n'as jamais vues. Là.
Puis qu'on les présente
pas. Non, on les présente pas en plus. Lui, on le connaissait, c'est ça. Mais je veux dire, il y avait 2 chevaliers que j'avais aucune idée c'est qui. On aurait besoin d'un petit peu plus de personnes que juste les personnages qu'on connaît. On va mettre 2 personnes qu'on connaît pas, ça va être correct.
Et des bouteilles d'eau, excusez.
Puis des bouteilles d'eau. Mais ça, c'est quelque chose qui me dérange, là. Ouais. L'affaire des bouteilles d'eau.
Puis le café, là.
Puis le café.
Ça leur a pris 2 ans.
Toutes les erreurs.
Ah, puis 6 épisodes.
Je sais, ça leur a pris 2 ans faire 6 épisodes.
Ça ferait la critique.
Ça a coûté tellement d'argent. Excuse-moi, ça se peut pas qu'il y ait personne qui avait double check des niaiseries de même, là, des détails.
Ça serait la seule critique que j'adresserais au crew, parce que franchement, c'est vraiment...
En même temps, il y a une excellente lecture qui a été faite de la part de Chloé Sandervoss qui dit que la présence de la bouteille d'eau est juste là pour expliciter le sous-texte écologiste. Non, mais je trouve que la lecture se vaut énormément, parce qu'une erreur comme ça, ça peut être l'équivalent télévisuel d'un Freudian slip. On a juste fait « Hop, c'est vrai, c'est notre élément ». Mais tout ce qui était dans l'idée écologiste, Elisabeth, il me semble que tu voulais venir en parler.
Ben, en fait, oui. J'ai beaucoup de choses à dire, puis surtout si les gens écoutent aussi les Amazones, ils ont déjà entendu beaucoup de mon opinion là-dessus, fait que je vais faire un résumé puis aller plus loin que ce que j'ai déjà dit dans les autres podcasts pour rajouter une plus-value à mon apport, mais je pense que les gens qui m'ont entendu à Pop en Stock et aux Amazones savent à quel point j'apprécie lorsqu'une œuvre, pas nécessairement parce que c'est ça que ça veut dire, mais j'aime bien lui trouver un sens politicaux, sociologicaux, contemporains. C'est une des raisons pourquoi je suis venue avec beaucoup d'amour parler de Hunger Games et de d'autres œuvres comme ça. Donc, c'est pour ça que souvent, je suis dans cette espèce de recherche-là. Beaucoup de gens cherchaient les Secret Targaryen dans leur fan theory. Moi, je cherchais la morale contemporaine sur notre société. Mm-hmm. Et c'est pourquoi, avant que la saison sorte, aux Amazones, j'avais expliqué que pour moi, les White Walkers étaient en fait une façon de représenter les changements climatiques. Et c'est pourquoi, quand je théorisait sur quelle serait la fin que je voudrais de Game of Thrones. Et c'est pas parce que je n'ai pas eu ce que je veux que je suis insatisfaite, mais c'était une espèce de petit fantasme. C'est, j'aurais vraiment beaucoup aimé que soit ça finisse que tout le monde meurt parce que on n'a pas prévenu les White Walkers, on n'a pas été assez tight, puis ben on a beau essayer d'avoir fait le maximum qu'on pouvait à la dernière minute, on a juste été trop peu trop tard et voilà, c'est fini. Donc Westeros est wiped, mais il y a d'autres royaumes, puis ou peut-être une
ça
autre...
finit à l'épisode 3, puis mais
et ça aurait pu aussi être un on a vraiment été capable de peine et de misère à réussir à tuer les White Walkers, donc il y aura une révolution qui va s'en soutenir et ça serait à ce moment-là la fin de la monarchie absolue
qui moi en fait je pense qu'il va être la fin ultime là. Je pense que
puis
je pense que ça, c'est ça que ça veut dire.
Ben oui, c'est ce que Daenerys a gagné.
En fait, si je peux continuer aussi, parce que ça, ce n'était que le début de ma pensée. Donc ça, c'était avant que la série commence. Mais la saison 8. Là, la saison 8 commence, puis là, l'épisode 3 arrive, puis là, le Night King, il meurt. Puis là, je suis comme... Oups, OK. Fait que ça sera pas ça. Fait que, bon, on doit penser à autre chose. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire à ce moment-là? Puis là, ben, à ce moment-là, je pensais qu'on essayait de nous dire que, bon, ben, finalement, ça a jamais été à propos des White Walkers, OK? C'est vraiment ce que les gens disaient. Non, 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 c'est les Game of Thrones, c'est le trône, c'est qui va finir sur le trône, c'est ça qui compte. Puis là, ben, Dany a... Elle pète la ville, puis Dragon, il fait fondre le trône. Fait que je suis comme, ben, c'est pas ça non plus. Puis là, il y a la scène. Et là, il y a la dite scène où tout le monde est sous le chapiteau, puis discute, puis tout ça. Puis où Tyrion, je vais faire une parenthèse sur le personnage de Dany, en fait. Ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est pour faire un lien avec le changement climatique. Mais tu sais, il y a beaucoup de liens à faire entre, justement, tu sais, l'espèce de crise généralisée sur les changements climatiques, aussi la crise de l'immigration, des migrants et tout ça, avec justement des gens qui ont afflué, donc les Wildlings qui ont afflué à travers le mur, puis tout ça, parce que il fallait les aider, puis tout ça, puis c'est pas tout le monde qui était pauvre, parce que, bon, bref, plein d'histoires. Mais il y a comme toutes ces espèces d'idéologies-là que il y a une certaine gauche radicale en ce moment qui... puis même une droite radicale, mais il y a des radicalisations qui se font, qui promouvoient une dictature douce, puis qui promouvoient une dictature éclairée. Et c'est, je pense, ce que Dany représentait d'une certaine façon, cette dite dictature éclairée-là, où, ben, she knows what's good.
Puis elle le dit ouvertement.
Et voilà. Mmh. Puis, comme disait Tyrion, elle a tué des mauvaises personnes à répétition. On le laissait faire. Et peut-être qu'une des morales que j'aimerais peut-être en tirer, c'est bien, dans tous les cas, même si la personne knows good à jusqu'à preuve du contraire, ben on va, si on crée pas de système qui va nous protéger de notre propre pouvoir politique, ça peut nous péter des mains à n'importe quel moment. Fait que ça, je pense que c'est une des morales politique et sociologique qu'on peut retenir de la fin de la 8e saison de Game of Thrones. L'autre aspect aussi, bon, bref, la fin de la monarchie absolue. On est quand même passé d'une monarchie absolue à, bon, il y a eu l'indépendance au nord, il y a eu une notion d'aristocratie élective où à chaque fois que le souverain va mourir, il pourra y avoir une réélection d'un prochain souverain. Donc, il y a déjà une avancée démocratique.
Ça va se faire smoothly, c'est ça?
Mais peut-être que aussi, ben, de toute façon, en ce moment, moi, je crois pas qu'on vit dans une démocratie, mais ça sera pour un autre épisode. Donc, je pense que la finale de Game of Thrones, en fait, est excessivement proche de la démocratie actuelle occidentale. Mm-hmm. Donc, on s'est rapproché quand même de notre perception et non pas de la perception de la démocratie directe qui est promue par Samuel dans son discours sous le chapiteau. Mais finalement, qui gagne?
Personne?
Non. Qui gagne? Bran Stark,
oui.
Un être d'absolue raison. Ou est-ce qu'on dit, c'est pas la moralité qui va gagner, donc she knows better than everyone what's good, c'est pas ça qui va gagner, c'est l'ultra-pragmatisme. Et ça, c'est pas mon idée, c'est celle de mon mari Simon, qui écoute peut-être...
Allô
Simon. C'est la victoire du transhumanisme, en fait. Parce que c'est la victoire d'un AI qu'on a décidé volontairement de mettre à la place du pouvoir qu'on avait avant, d'un pouvoir moral et émotionnel. Et à la place, on va placer un être d'ultra-raison qui ne peut pas se laisser avoir par ses émotions et qui va, de facto, knows better, va aller plus loin que l'humanité. L'humanité qui est un être imparfait, qui doit vivre avec les conséquences de son imperfection. On essaie d'y mettre un personnage qui, dans le thème de la magie, se rapproche en fait beaucoup du robot, qui revient en fait à la finale, et là c'est là que je fais mon lien que d'Isaac Asimov, que j'adore et que je parle tout le temps, mais qui est une fin conséquentialiste, qui est la même fin que les robots, en fait, que le premier tome des robots, où c'est la fin va justifier les moyens, et puisque l'homme ne sera jamais capable de s'autogérer, plaçons une intelligence artificielle à la tête de la société humaine. Ce qui était une finale conséquentialiste qui peut faire peur à plein de gens, qui pour certaines personnes est une fatalité, qui pour certaines personnes est excessivement souhaitable, mais dans tous les cas, c'est, je crois, ce que Game of Thrones nous a donné comme conclusion.
J'aurais une question, par exemple, pour toi. Peut-être que je coupe les cheveux en quatre, peut-être que c'est pas une distinction qui est nécessaire, mais Bran, est-ce que c'est vraiment l'incarnation de la raison ou du savoir?
Ben, dans tous les cas, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup ri de lui dans la en tout cas dans les groupes de, d'amis que j'ai, parce que c'était une personne qui était devenue très loin de ses émotions, très
parce qu'il fixait dans le vide pendant un épisode au complet,
parce qu'il avait pas
mais avec tellement d'intensité.
C'est ça. Mais peut-être que c'est sa seule émotion, là.
Non, mais c'est une bonne question, Annie, parce que c'est quand même ça sera. C'est pas une question qui est incompatible avec l'analyse, parce que c'est la somme des savoirs.
Oui.
Mais
et la somme des savoirs,
puis,
c'est essentiellement ça, l'objectif d'un AI. Puis ça fonctionne très bien dans l'idée que il n'est plus une personne, il est devenu autre chose. Il y a quand même énormément des lignes, des très peu de lignes de la part de Bran qui viennent soutenir ce que tu es en train de dire. Notamment le fait que c'est une intelligence artificielle qui a orchestré, ou du moins placer les choses pour être capable de se mettre lui-même.
Ce qui je trouve vraiment important, c'est aussi de mentionner qu'il y a beaucoup d'analystes, dont mon préféré, Preston Jacob, sur YouTube, qui dit que, comme tout le monde le sait, George Martin est un écrivain de science-fiction avant tout, et qui dit que Game of Thrones n'est pas tant du fantasy, ça bouge pas mal sur la ligne de la science-fiction, souvent. Fait que moi, c'est une interprétation qui vient me chercher profondément dans mon cœur, de dire que
je partage également, parce que je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui participait à particulièrement dans les livres, on se le cachera pas, on fait une comparaison un peu avec ça aussi. C'est une plus grande nuance que de dire, ben là, c'est de la magie, ça règle tout.
Oui, absolument.
Mais beaucoup de gens ont dit aussi que le succès de Game of Thrones vient du fait qu'on s'y identifiait. Puis je pense que c'est une façon de s'identifier, c'est de se dire que il y a une notion un peu où est-ce que toute cette déception-là du fait que nous sommes victimes du système. Et c'est ce qui rendait, par exemple, l'écoute intéressante. C'est que si on est victime de ce système-là, puis qu'on dit il sera plus grand que nous, ben il y a quand même cette recherche-là des personnages à travers nous, de ces personnages-là, de le contrôler. Puis à travers ça, on avait plusieurs visions politiques de comment le contrôler, on avait plusieurs ambitions, mais encore une fois, le virage psychologique a peut-être en fait diminué cette impression-là, mais a diminué cette lecture-là, cette façon de se projeter-là. Mais je pense que la finale nous ramène un peu à ça, tu sais.
J'étais moins déçue de la finale que de l'épisode 5, on s'entend. Non, mais il y avait
j'étais d'accord.
OK. Parce qu'il y avait une tentative de... Mais moi, j'étais arrivée à la saison 8 avec aucune attente, parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'étais très déçue du traitement à partir de la saison 5. Efficace sur le plan cinématographique, très efficace sur le plan visuel, musical et tout. On s'entend que ça, on en a discuté, mais il y avait quelque chose aussi. Je retrouvais quand même des affaires de Game of Thrones que j'aimais de Game of Thrones, ayant très peu d'attentes, on s'entend, avec une barre très basse. Puis la conclusion. J'ai pas été fâchée de la conclusion, j'étais encore, somme toute, très déçue de l'exécution, parce que c'est là, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème intense de ce côté-là.
Oui.
Puis Jean-Michel fait signe que non.
Jean-Michel n'est pas d'accord.
Jean-Michel fait...
Non, c'est correct, ça serait une autre émission.
Ça serait une autre émission, mais c'est ça, je pense qu'il y a quand même... il y a une différence en tête, justement, on parlait de l'insatisfaction... Le twist de Bran, OK, on le voyait pas nécessairement venir, mais est-ce que c'est si illogique que ça? Non, peut-être pas. Je comprends juste pas comment Tyrion, c'est tout ça de lui. Ils ont parlé d'une chaise roulante à un moment donné, mais en tout cas, ça, c'est encore une fois des conversations qu'on n'a pas vues.
Non, mais c'est ça. Je pense qu'il aurait pu passer moins de temps à faire des scènes vraiment trop longues où il se passe rien, ou genre des raids de dragons.
Ah, mon Dieu!
Nous montrer plus de discussions. Genre, la discussion de Tyrion avec Bran aurait été quand même importante pour nous expliquer le choix de pourquoi Tyrion trouve que Bran est une bonne idée. Parce que nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a dit « Hey, raconte-moi ton histoire. » Puis c'est tout, tu sais, on n'a pas la substance, tu sais, de la conversation derrière.
Puis si je ramène à ton article que tu nous parlais, en fait, concernant le traitement aussi du personnage de Daenerys, où est-ce que on avait des raisons, mettons, tu sais, que peu importe, dans le fond, dans un scénario sociologique, peu importe qui sera la personne, il va avoir des finalités similaires parce que structurellement, le pouvoir a certaines conséquences, le statut social a d'autres conséquences, puis tout ça. Alors que dans l'article, je trouvais ça intéressant quand ça disait que dans le discours de Varys, quand il parle des Targaryens comme étant des coins,
Sides of a
c'est ça,
coin,
on sait pas de quel côté ça va tomber, ben que ça prenait justement toute cette espèce de poids-là de réflexion sociologique à un déterministe génétique qui était exact. Beaucoup moins intéressant.
Mm-hmm. Oui. Ouais, c'est Patient Jacobs fait une analyse par rapport à ça sur la capacité de la connexion entre les Targaryens puis les dragons. Ça, c'est un autre
la génétique.
La génétique tout, ouais. Et c'est ça, mais ça reste que le il fait le discours avec Jon Snow aussi, il lui dit là, nous on sait de quel côté t'es tombé. En même temps, Jon Snow, qu'est-ce qu'il a fait pour comme tu sais il a failli
nothing. That's nothing. What he did.
He knows nothing and he does nothing. Il a je veux dire dans la saison 7 qu'on lui attribue la royauté puis oui. Après avoir failli détruire après avoir saboté complètement la bataille contre Ramsay. Ben, en chargeant seul devant l'armée complète. Puis, ben, qui sauve la donne? C'est Sansa. Puis Sansa, ben, sorry girl, t'attends. Encore une fois, c'est une absence de conséquences politiques, tu sais. Mm-hmm. Mais il faut qu'on ait un héros. Il faut qu'on ait le beau Kit Harington avec ses cheveux dans le vent qui prend le
lit.
Sois
gentil avec Kit, OK? Il fait son mieux avec ce qu'on lui donne. Oui. Puis c'est pas de sa faute.
Non, je le comprends.
On t'aime, Kit.
Pour nous, je te donne le mot de la fin, Catherine.
Ben oui, merci. Ben, j'avais une petite question par rapport à ta théorie, mais là, ça va être le mot de la fin. Fait ouais. Que ça tombe mal, tu sais. Mais est-ce que c'est moi qui me trompe ou le Three-Eyed Raven, celui pogné dans l'arbre, était âgé d'à peu près un millénaire?
C'est vrai.
C'est pas un millénaire, c'est quelques centaines d'années.
Mais je veux dire, quand même, oui. Fait que le principe de casser la roue puis mettre une aristocratie élective, là, c'est pas mal scrap, là, parce que Bran va être là jusqu'à temps que toutes les autres personnes soient mortes autour, là.
Puis en fait, c'est un bastard des Targaryen, en plus. Ah. Fait que, en tout cas, on s'en reparlera peut-être une autre fois, là,
Non,
c'est une excellente suggestion.
Mais c'est aussi...
On arrête puis on continue une autre fois.
Parfait.
OK.
On se redonne sur un autre rendez-vous. Non, mais c'est parce que je vois. Elisabeth ouvre beaucoup de portes depuis le début puis on a...
Ben oui, puis il faut parler des dragons avec Pascal la prochaine fois.
Ah, les dragons, absolument. C'est important.
Oui, puis la relation aux animaux qui va de pair avec le transhumanisme, à mon sens, par rapport à Bran.
OK, fait qu'on est obligé de faire une partie 2.
On peut quand même souligner qu'ils ont passé 45 minutes à montrer un dragon qui fait du feu sur sur une ville, mais qui n'ont pas été capables de donner assez de budget à Jon Snow pour flatter son maudit chien.
On en reparlera, ça.
Merci, merci tout le monde. Bonne semaine. Quelque part ici, là, il va y avoir du monde.
OK, fait.
Ah!
Fait Blood Raven, OK? C'est un black fight.
Feel your heartbeat next to me. You're getting closer and the night is warmer. Do it, act on the fantasy. Do it, act on the fantasy. Do it, act on the fantasy. I know you see me looking at you.